Gloire à Dieu. Voilà, c'est avec beaucoup de joie, j'attendais un petit peu parce que plusieurs arrivent encore, c'est avec beaucoup de joie que je suis avec vous. Je remercie bien sûr l'invitation de votre pasteur, c'est vraiment formidable de sa part et combien il me reçoit avec beaucoup de gentillesse et d'amour avec son épouse. Je mange plein de bonnes choses, gloire à Dieu. Et moi je suis toujours passionné par ce que je fais quand il est question de l'hébreu, du peuple d'Israël, du peuple juif. Voilà, c'est ma vie, je vis avec ça du matin au soir, quand ce n'est pas du soir au matin. Gloire à Dieu, que ce soit la partie chant ou la partie autre que le chant, bien sûr. Alors, on va chanter ce chant « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un ». C'est la confession de foi juive la plus importante. Après, on le reprendra en hébreu. « Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad ». Lorsque les Juifs récitent cette phrase, ils se mettent la main devant les yeux comme ça. Shema Israël, Adonai Eloheinu. Voilà. Et puis, il y a la suite qui est très importante. C'est quoi la suite de ça? Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Dans le texte hébreu, la dernière partie est de toute ta pensée. C'est traduit par toute ta pensée, mais en fait, c'est quasiment intraduisible. Parce que c'est écrit « et de tout ton trait », très, très dans le sens de très, très grand. Tu aimeras le Seigneur de tout ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton trait. C'est difficile à traduire ça. Ubechol ve'meodecha me'od, c'est trait. J'aime beaucoup ani ohev me'od, j'aime beaucoup. Et me'odecha, c'est ton, tout ton trait à toi. Et ça, c'est intraduisible. Ils ont traduit par toute ta pensée, mais ce n'est pas vraiment le mot pensée qui est écrit là. Voilà. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Adonai Echad, Adonai Echad. Adonai Echad, hein, Dieu est un, voilà. Alors les Juifs se servent des fois de ça pour dire « Mais vous, vous dites qu'il y a Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils ne sont pas trois, ils sont un, Adonai Echad. » Et là, il faut leur répondre « Oui, mais il est écrit que l'homme s'attachera à sa femme et ils ne formeront qu'une seule chair, Bassar Echad. » C'est le même mot qui est utilisé en hébreu, ils ne formeront qu'une seule chair. Et là, vous pouvez leur dire « Mais attendez, attendez, ils sont bien deux quand même. » Mais il est dit qu'ils ne formeront qu'un Echad. Donc c'est possible qu'il y ait le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui soient Echad. Amen. Eh oui, gloire à Dieu. Allez, on va terminer avec l'hymne israélien que vous connaissez avec l'air de « Oh, prends mon âme, prends-la Seigneur ». Mais en fait, c'est un chant qui nous dit « Aussi longtemps, je vais le traduire, aussi longtemps qu'au fond du cœur, l'âme du Juif vibre » et que vers les confins de l'Orient un œil sur Sion se fixe, nous n'avons pas encore perdu l'espoir, espoir vieux de 2000 ans, de vivre librement dans notre pays, terre de Sion et de Jérusalem. De vivre librement dans notre pays, terre de Sion et de Jérusalem. Voilà, là. C'est pas les mêmes paroles, bien sûr, que celles que nous connaissons. Hein. Kol od balevav penima nefesh yehudi omiya ulfate mizrach kadima ayin letzion sofia. Atikva bat shnot alpahim liotam chofshi be'atzeinu eretz tzion v'yerushalayim liotam chofshi be'atzeinu eretz Sion Virushalayim. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, ça va, vous allez bien? Ouais. Vous n'êtes pas fatigué? Pas être fatigué hein, pour écouter les choses qu'on va voir ce soir. Hein. Voilà, le Seigneur a dit, le royaume des cieux est proche. Amen. Jésus revient bientôt. Il y a dans la parole de Dieu des signes annonciateurs du retour de Jésus, plusieurs signes. Et ce qui est particulier à l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est que tous les signes sont là. Et ils sont tous ensemble et dans le monde entier. L'évangélisation du monde qui s'accélère. Amen. Comme jamais. Bouleversements climatiques et autres, épidémies, guerres, tremblements de terre, famines, angoisse parmi les nations, les hommes diront paix et sûreté, aggravation du mal, du péché comme au temps de Noé, égoïsme, méchanceté, abandon de la foi, violence, mensonge et toutes ces choses qu'on trouve entre autres dans 2 Timothée 3, versets 2 à 5. Mondialisation qui prépare le futur gouvernement de l'Antichrist. Et bien sûr, et on va parler pas mal de ça, le retour des Juifs sur leur terre, Eretz Israël, leur terre, qui est notre sujet en particulier ce soir. Et on va trouver dans Ézéchiel 37, 1 à 14, la vision des ossements desséchés. Vous connaissez, j'espère, hein, c'est tellement important. Alors, on ne va pas tout lire parce que ça fait quand même 14 versets, Ézéchiel 37, 1 à 14. Israël qui représente ses ossements desséchés et qui vont reprendre vie, amen, en se rapprochant les uns des autres, mais qui n'ont pas encore reçu l'Esprit. Et c'est bien le cas actuellement. C'est intéressant de savoir que le jour, la fête de l'indépendance d'Israël, qui se fête le 14 mai, s'appelle Yom Atzmaout. Et Yom Atzmaout, ça veut dire jour des ossements. Parce que la fête de l'indépendance pour les Juifs fait directement référence à Ézéchiel 37, 1 à 14, à la vision des ossements desséchés. Les Juifs ont très bien compris, puisque c'est comme ça qu'ils ont donné le nom à leur fête d'indépendance, que le retour, la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, et le début de l'accomplissement de la prophétie des ossements desséchés. Yom Atzmaout, jour des ossements. Etzem en hébreu, c'est un os. Et Atzmaout, les ossements. Ce qui est intéressant, c'est que ce retour des Juifs sur leur terre, on le trouve très tôt dans la parole de Dieu. À un moment où il n'est pas encore du tout question de dispersion. Dans Deutéronome, verset 30, on est loin de la première dispersion, comme on a vu hier soir, avec le royaume de Nebuchadnezzar et la dispersion dans le royaume de Babylone. Alors, Deutéronome 30, versets 3 à 6. Alors, ce soir, on va faire des lectures. Deutéronome 30, versets 3 à 6. Alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. On n'est que dans le Deutéronome, là. Quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là, et c'est là qu'il t'ira chercher. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Gloire à Dieu. C'est quand même intéressant de voir que dans le Deutéronome, alors qu'on est encore très loin de la première dispersion, qu'il est déjà question de les ramener après des dispersions. Alors des versets qui parlent du retour des Juifs sur leur terre, il y en a des dizaines. Ils sont extrêmement importants et on va en voir quelques-uns ce soir et ensuite on verra comment ça s'est réalisé. Alors je vais vous lire Ésaïe 43, 5 à 7 par exemple. Ne crains rien car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne. Septentrion, c'est le nord. Hein. Quand le mur de Berlin est tombé, plus d'un million de juifs du RSS sont partis en Israël. Plus d'un million sont rentrés en Israël. Il y avait à ce moment-là en Israël entre 3 et 4 millions de juifs. Il est débarqué d'un coup plus d'un million de juifs de Russie qui parlaient russe. Un tiers ou un quart de la population parlait russe tout d'un coup du jour au lendemain. Hein. Enfin, à peu près. Alors, on va prendre Jérémie 31,8. On va en voir plusieurs. Vous savez, s'il y a autant de prophéties qui parlent de ça, c'est parce que c'est un événement majeur, et notamment un événement majeur des temps de la fin. Jérémie 31,8. Voici, je les ramène du pays du septentrion, je les ramène des extrémités de la terre. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle en travail. C'est une grande multitude qui revient ici. Ils viennent en pleurant et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau par un chemin uni où ils ne chancellent pas, car je suis un père pour Israël, Éphraïm est mon premier-né. Amen. Gloire à Dieu. Nation, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera. Il le gardera comme le berger garde son troupeau, car l'Éternel rachète Jacob. Il le délivre de la main d'un plus fort que lui. On va continuer avec Jérémie 32, 37. Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés dans ma colère, dans ma fureur et dans ma grande irritation. Je les ramènerai dans ce lieu et je les ferai habiter en sécurité. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même voix afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur, etc. On pourrait continuer comme ça. Je crois que c'est pas difficile à comprendre. Hein. On va continuer avec Ézéchiel 11, verset 17. Tous les prophètes en parlent. Ézéchiel 11, 17. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés, je vous donnerai la terre d'Israël. C'est là qu'ils iront et ils en ôteront toutes les idoles et toutes les abominations. Je leur donnerai un même cœur, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, je leur donnerai un cœur de chair afin qu'ils suivent mes ordonnances et pratiquent mes lois. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, Dieu n'a pas fini avec Israël. Hein. Ézéchiel chapitre 20, verset 41. Il faut être attentif à ce qui se passe. C'est encourageant pour notre foi. Ézéchiel 20, 41. Je vous recevrai, Oui, c'est bien ça. Je vous recevrai comme un parfum d'une agréable odeur quand je vous aurai fait sortir du milieu des peuples et rassembler des pays où vous êtes dispersés, et je serai sanctifié par vous aux yeux des nations, et vous saurez que je suis l'Éternel quand je vous ramènerai dans le pays d'Israël, dans le pays que j'avais juré de donner à vos pères. Gloire à Dieu. Ézéchiel, alors on va quand même venir à Ézéchiel 37. On va juste prendre le verset 21. Vous connaissez toutes ces choses ? Ça va ? C'est important, hein ? Amen. Ézéchiel 37, 21. Tu leur diras ainsi, parle le Seigneur l'Éternel, voici je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Ézéchiel 39, 27. Quand je les ramènerai d'entre les peuples, quand je les rassemblerai du pays de leurs ennemis, je serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations, et ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les avait amenés captifs parmi les nations, et qui les rassemble dans leur pays. Je ne laisserai chez elles, dans les autres pays, aucun d'eux. Ça veut dire que je vais devoir partir bientôt. Hein ? C'est écrit. Hein ? Michée, prophète Michée. Je change exprès de temps en temps. Michée 4, verset 6. En ce jour-là, dit l'Éternel, je recueillerai les boiteux, je rassemblerai ceux qui étaient chassés, ceux que j'avais maltraités, des boiteux, je ferai un reste de ceux qui étaient chassés, une nation puissante. Et l'Éternel régnera sur eux à la montagne de Sion. Gloire à Dieu. On va prendre Sophonie, chapitre 3, verset 20. En ce temps-là, je vous ramènerai, en ce temps-là, je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Gloire à Dieu. Alors, l'objectif essentiel de ce rassemblement, il est dans Zacharie 12, 10 et 13, 1. Très important, Zacharie 12, 10. Voilà l'objectif de ce rassemblement. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem. Excusez-moi, je suis très ému quand je lis ces choses. En ce jour-là, une source sera, 13.1, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem pour le péché et pour l'impureté. Alors comment ces choses se sont produites, tout au moins ont commencé à se produire, puisqu'aujourd'hui il y a à peu près la moitié de la population juive du monde qui est en Israël. L'autre moitié se trouve essentiellement aux États-Unis, en France, troisième pays au monde où il y a le plus de juifs, Israël numéro 1, États-Unis numéro 2, France numéro 3, et après d'autres pays. Comment ça s'est réalisé et comment ça continue de se réaliser sous nos yeux ? Eh bien, figurez-vous que cette histoire commence avec quelque chose de très important qui s'est passé en France et qu'on appelle, vers 1894, l'affaire Dreyfus. Vous connaissez un peu l'histoire de l'affaire Dreyfus ? C'est un capitaine de l'armée française qui est accusé, il est juif, et il est accusé d'être ami avec les Allemands, d'être un traître, en fait, un espion à la solde des Allemands. Et il va y avoir un procès complètement faussé, complètement bidon, parce qu'il est juif. Et ce procès du capitaine Dreyfus va révéler qu'en France, et pas qu'en France, mais en Europe, mais en France, il y a déjà un antisémitisme énorme. Et par rapport à l'affaire Dreyfus, en France, on va crier « mort aux Juifs ». O-A-U-X, et pas O-A-U. Il y a un antisémitisme très important et il y a un homme qui va se dresser contre tout ça, un écrivain très connu qui s'appelle Émile Zola et qui va écrire dans le journal L'Aurore un article qui s'appelle « J'accuse ». Oh, mais c'est formidable ça. Bien, merci. Et Zola va démontrer. Malgré cela, le capitaine Dreyfus sera quand même condamné et va se retrouver pour quelques années au bagne, je crois en Guyane. Par rapport à cet événement, il y a un homme très important qui s'appelle Theodor Herzl, qui est un journaliste juif autrichien, pas du tout religieux, qui est mandaté par son journal pour couvrir l'événement. Il va venir donc à Paris et il va faire son travail de journaliste sur l'affaire Dreyfus et il va être choqué par la gravité de l'antisémitisme en France et même en Europe. Il va comprendre que les Juifs sont en danger et il se dit il faut créer un État juif. On est à peu près en 1894-95. C'est avant la guerre de 14. Il n'est pas du tout question encore de l'État d'Israël. Et il va comprendre qu'il faut créer un État pour les Juifs parce que tôt ou tard, la situation va être catastrophique pour eux. C'est très visionnaire ce qu'il dit en 1895. On est quand même encore bien loin de la venue de Hitler. Alors on va envoyer la première vidéo, la numéro 1, merci, qui nous parle donc de cet homme, Theodor Herzl, qui va créer ce qu'on appelle le sionisme. Merci.
Pendant plusieurs siècles, les persécutions et pogroms ont poussé les Juifs à tenter de revenir sur leur terre natale. L'année 1897 marque un tournant dans cette quête. La priorité est donnée à la création d'institutions politiques afin de concrétiser l'établissement d'un État juif. Du 29 au 31 août 1897, Theodor Herzl organise et dirige le premier congrès sioniste à Bâle, en Suisse. Quelques 200 participants venant de 17 pays y prendront part. 69 étaient des délégués de différentes sociétés sionistes et le reste étaient des personnes présentes à titre personnel. 10 non-juifs étaient également dans l'assistance, dont le pasteur William Eschler, qui apporta une aide considérable à Herzl. Le congrès est organisé autour de la présentation des plans de Theodor Herzl, la fondation de l'organisation sioniste et la déclaration des objectifs du sionisme. Cette dernière constitue un programme politique qui sera ensuite connu sous le nom de « programme de Bâle ». Il fut adopté dans ces termes.
Le sionisme vise à établir pour le peuple juif une patrie reconnue publiquement et légalement en Palestine.
Theodor Herzl a écrit dans son journal
« À Bâle, j'ai créé l'État juif. Si je disais cela aujourd'hui publiquement, tout le monde se moquerait de moi. Dans 5 ans peut-être, dans 50 ans sûrement, tout le monde acquiescera. »
Le congrès de Bâle constitue un moment déterminant. Il fait d'un phénomène populaire un véritable mouvement politique avec pour objectif la fondation d'un État juif moderne. C'est l'affirmation du droit du peuple juif à l'autodétermination sur sa terre natale historique, tout comme les autres nations.
Gloire à Dieu. Cet homme, Theodor Herzl, il est considéré par les juifs comme un prophète. Il est considéré comme un prophète des temps modernes. Et ce qui est intéressant, vous avez pu remarquer qu'il a été fortement aidé par un certain pasteur qui s'appelait William Eschler, très connu. Pourquoi a-t-il été aidé par un pasteur? Eh bien parce que ce pasteur a compris, il savait, d'après les Écritures, que c'était le plan de Dieu et que Theodor Herzl était parfaitement dans le plan de Dieu, dans ce qu'il voulait faire. Et lui, en tant que pasteur, il s'est dit « il faut que je l'aide ». Or, cet homme, William Eschler, il avait un gros avantage, c'est qu'il connaissait des gens très haut placés. Et il a permis à Theodor Herzl d'accéder à ce qu'on appelle aujourd'hui, on peut appeler des têtes couronnées. Il y a des gens très haut placés qui dirigent. Et ça a ouvert énormément de portes à Theodor Herzl que ce pasteur a pu être comme ça ainsi à ses côtés. Très intéressant aussi, c'est qu'exactement en même temps, il y a un autre homme. Ils ne se connaissent pas. Il s'appelle Eliezer Ben Yehuda. Il est en Israël avec sa femme et ses enfants. Et lui aussi, il reçoit de Dieu, on peut dire de Dieu, même si lui ne le dit pas comme ça, quelque chose d'incroyable. Il dit, il faut que l'hébreu redevienne une langue vivante. Ça fait quasiment 2000 ans que l'hébreu n'est la langue que de la religion, de la synagogue. Personne ne parle hébreu à la maison, personne ne parle hébreu en dehors de la synagogue, et tout ce qui existe en hébreu ne sont que les textes religieux de l'Ancien Testament et le Talmud. Et lui, il se dit, on va remettre l'hébreu au goût du jour. On est en 1800, à cette même époque, 1880. Il commence à dire qu'on va parler hébreu à la maison, avec la femme, les enfants. Et il va créer lui-même un dictionnaire avec tout, il va inventer tous les mots nouveaux. Parce que dans la Bible, un frigidaire, vous ne l'avez pas. Hein. Une voiture, un avion, un four micro-ondes, tout ce que vous voulez. Bon, lui, il ne l'avait pas non plus à son époque. Hein. Il va inventer tous les mots modernes, mais en plus, il ne va pas dire n'importe quoi. Il va donner une consonance et une logique hébraïque à ces mots. Il va créer des écoles de formation avec des instituteurs pour que tout le monde apprenne l'hébreu. Tout le monde le prend pour un fou, comme Théodore Herzl. Tout le monde, quand il dit « dans 5 ans peut-être et dans 50 ans sûrement il y aura un État juif », tout le monde le prend pour un fou. Les Juifs eux-mêmes ne veulent pas le suivre. Et Eliezer Ben Yehuda, quand il dit « on va refaire de l'hébreu une langue vivante, moderne », mais personne ne veut, déjà ils n'ont pas envie d'apprendre l'hébreu. Et puis il crée ses écoles avec les instituts et ça va marcher, il va réussir. Il va refaire de l'hébreu une langue qui ne se parlait plus dans la rue depuis 2000 ans, une langue vivante. Le 14 mai 48, lorsque l'État d'Israël est créé, ce jour-là, il est proclamé que l'hébreu devient la langue officielle de l'État juif. Tout avait été préparé. Parce que les gens arrivaient de partout avec des langues différentes, de toutes sortes de langues. Et ça, c'est vraiment fantastique parce que ça se passe exactement en même temps. Deux hommes qui ne se connaissent pas. Un qui a la vision de créer un État juif choqué par l'événement de l'affaire Dreyfus. Et l'autre qui est en Israël et qui se dit « il faut que l'hébreu redevienne une langue vivante ». Et il va, et ça va marcher. Amen. Cette idée de Herzl va faire son chemin. Et après la Seconde Guerre mondiale, un vote va être effectué à l'ONU le 29 novembre 1947. Il y aura 56 pays qui vont voter. 33 vont dire oui, dont la France. 13 vont dire non et 10 seront neutres. Il y a deux facteurs essentiels qui vont faire pencher en faveur du oui. D'abord, c'est bien sûr la Shoah. La moitié des Juifs du monde viennent d'être exterminés. 6 millions sur 12 millions. Et encore, s'il y a eu des survivants, c'est parce que beaucoup étaient en Afrique du Nord. Encore que Hitler avait prévu leur extermination. Il s'était déjà lié d'amitié avec le grand mufti de Jérusalem. On les voit en photo ensemble. Et il avait prévu d'organiser la Shoah pour les pays du Maroc, de la Tunisie, de l'Algérie, où il y avait beaucoup de Juifs. Donc la Shoah a fait pencher en faveur. Et puis un autre événement grave de l'époque, qui est symbolisé par l'histoire, je dis symbolisé parce qu'il n'y a pas eu que ça, par l'histoire du bateau Exodus. Vous connaissez l'histoire d'Exodus ? Alors qu'est-ce qui se passe ? Après la guerre, des Juifs commencent à vouloir rentrer en Israël. Ils arrivent par bateau entier, sauf qu'à ce moment-là, Israël, enfin, on appelle ça encore la Palestine d'ailleurs, est sous mandat britannique. C'est les Anglais qui sont responsables, que tout se passe bien, mandatés par l'ONU, et ils se disent « oulala, ça va mal finir cette histoire ». Et ils commencent à empêcher les bateaux de Juifs d'arriver. Ils leur font faire, alors que les Juifs sont dans des conditions catastrophiques sur les bateaux, des vieux bateaux, ils sont beaucoup trop nombreux, etc. Et ils font repartir les bateaux en direction de Chypre et de l'Allemagne, où ils sont internés dans des camps derrière des barbelés, juste après la Shoah. Les gens voient les photos dans les journaux de ces Juifs qu'on renvoie dans des camps derrière des barbelés, ils sont outrés. Ça fait un scandale dans la population réagit et ça pousse l'ONU à voter en faveur de la création de l'État d'Israël. L'opinion mondiale est bouleversée par ces histoires Et il y a une histoire emblématique, c'est l'histoire du bateau Exodus. Alors on va passer la vidéo numéro 2, merci. C'est le vote, alors j'ai pas passé les, je vous ai pas mis les 56 votes.
Hein. Non. Turkey.
C'est le vote à l'ONU.
Non.
Turquie, non.
Ukraine.
Ukraine.
Yes.
Oui.
South Africa.
Sud-Africa.
Yes. Soviet Union. Yes. United Kingdom.
United Kingdom.
Abstain.
S'abstiennent.
The United States.
Les États-Unis.
Yes. Uruguay.
Uruguay.
Yes. Venezuela.
Venezuela.
Yes. Yemen.
Irlande.
No.
No.
Yugoslavia. Abstain.
Alors, je vous ai pas passé les 56 votes, hein, parce que ça durerait trop longtemps.
The resolution of the Duck Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions.
Ça, c'est des événements historiques.
Syria.
Ça, c'est des événements historiques. Ce sont des grands moments d'accomplissement de la parole de Dieu. Suite à cela, parce que là, c'est en 47, c'est le 29 novembre 47. Suite à cela, le 14 mai 48, pour la première fois, un gouvernement israélien avec Ben Gourion va se réunir et voter officiellement la création de l'État d'Israël. Donc le 14 mai 48, le lendemain de la création, tous les pays arabes se liguent et se mettent en guerre contre Israël. Tous les pays arabes qui sont énormes autour. Et en plus, il y a des Arabes au milieu, parce que quand les Juifs arrivent, il y a des Arabes qui vivent sur place, et ça devient malheureusement impossible de vivre ensemble. Ça devient aussi extrêmement grave, et il y a eu des massacres terribles de Juifs qui sont en Tunisie, au Maroc, en Algérie, et dans tous ces pays arabes, bien sûr. Parce qu'ils font la guerre à Israël, mais il y a plein de Juifs qui sont au milieu d'eux depuis des siècles. Et ça se passait très bien pendant des siècles. Alors, on va passer la vidéo numéro 3. Merci.
Syria.
Zuhi zkuto hativit shel am ha-yudi. Liyot kochol am ve-am. Omed birshut atmo. Din dinato haribanit. Asher. תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי ותעניק לעם היהודי ממת של אומה שבת זכיות בתוך העמים. לפיכך נתכנסנו, אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל. ותוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל היא מדינת ישראל.
Voilà, ça c'est la réalisation donc de la prophétie d'Ésaïe 66:8. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais rien vu de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Amen. Voilà, ce sont quand même des grands moments de l'histoire, mais de la réalisation, surtout, de la parole de Dieu. Gloire à Dieu, non? À partir de ce moment-là, bien sûr, des Juifs du monde entier, malgré les guerres, malgré toutes les histoires, on ne va pas partir sur les guerres parce que c'est compliqué, du monde entier vont arriver, d'Afrique du Nord, de Russie, et puis aussi même de France, puisqu'en France, il y a 20 ans, à peu près 1 million de Juifs en France, il n'y en a plus que la moitié. Pratiquement, la grande majorité sont aujourd'hui en Israël. Ce retour, ça s'appelle ce qu'on appelle l'Aliyah. L'Aliyah, ça veut dire en hébreu la montée. Parce que partir en Israël, pour des Juifs, c'est une montée, mais ce n'est pas une montée géographique, c'est une montée spirituelle. Et c'est très important de faire sa montée spirituelle pour un Juif et de partir donc en Israël. Il y aura des vagues successives. Il y en a tout au long de l'année, depuis des années, de France, par exemple. L'Aliyah depuis la Russie et l'Ukraine s'était quasiment arrêtée et puis ça a redémarré avec la guerre parce que des Juifs ne veulent pas être enrôlés dans l'armée ukrainienne ou dans l'armée russe ou ont envie tout simplement d'éviter la guerre et se sauvent en Israël où ce n'est pas forcément beaucoup mieux, mais quand même. Et puis, bien sûr, aussi donc de France par vagues successives. Aujourd'hui, on sait qu'en France, à peu près 80% des Juifs s'intéressent à l'Aliyah. Il y a ce qu'on appelle en France des salons de l'Aliyah où les Juifs peuvent se renseigner pour savoir tout, comment ça se passe là-bas au niveau de l'école, de la sécurité sociale, de la banque, des appartements, etc. Et il y a des aides de l'État pendant 1 à 2 ans qui aident beaucoup ceux qui débarquent là-bas. Et puis, conformément à la parole de Dieu, il y a aussi des Juifs d'endroits plus reculés. On trouve ça dans Ésaïe 11:11. Où il est question, par exemple, des Juifs d'Éthiopie qui ont failli être persécutés, ça a failli mal tourner pour eux. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie, en Égypte, à Patros et en Éthiopie. Et ça continue. Alors on va passer les vidéos 4 et 5 qui nous parlent du retour des Juifs d'Éthiopie avec une opération de sauvetage extraordinaire appelée l'opération Salomon.
Plusieurs millions de dollars. L'agent juif et Tsahal préparent alors une nouvelle intervention, l'opération Salomon. Le 24 mai au matin, les premiers avions de l'armée israélienne décollent. En moins de 48 heures, 14 400 juifs réfugiés à Addis Abeba sont évacués vers Tel Aviv. Ils ne sont pas autorisés à prendre des bagages avec eux, permettant ainsi de transporter 000. Jusqu'à plus de 1000 passagers par avion, un record. Ils laissent tout derrière eux. Dans l'après-midi, le premier avion de l'opération Salomon atterrit à l'aéroport Ben Gurion. Des enfants, des jeunes et des moins jeunes débarquent les uns après les autres. Regards ébahis, fatigués. Réalisent-ils vraiment ce qu'ils sont en train de vivre ?
C'est le dernier groupe de la communauté juive qui attendait ce moment depuis des milliers d'années. Revenir dans leur pays, et nous l'avons fait.
Plus de 1000 volontaires de l'agence juive aident au bon déroulement de l'intervention. Beaucoup sont eux-mêmes originaires d'Éthiopie, arrivés par avion lors des opérations précédentes. Beaucoup attendent leur famille qu'ils n'ont pas vue depuis des années. Les retrouvailles, bouleversantes, se succèdent. Le moment est historique. Une communauté entière réalise enfin son rêve. Mais les Juifs d'Éthiopie, à l'aube d'une nouvelle vie, vont devoir aussi faire face à de nombreux obstacles, dans un pays où tout leur est étranger et tout est à reconstruire.
Voilà, merci. On peut passer à
plusieurs millions de dollars. L'agent juif est de ça.
Non, c'est pas celle-là.
Thank you.
réalisation des prophéties de la parole de Dieu. Et puis, bien sûr, il y a aussi il y a la France. Hein. Amen. Alors, pour la France, j'ai choisi un verset qui est magnifique dans Ésaïe 60, verset 8. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Vous savez, le prophète, qu'est-ce qu'il voit? Il ne sait pas, il n'a jamais vu un avion, le prophète. Il ne va pas dire qui sont ces gens dans des avions. Hein, mais il dit, qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Amen. Et on va passer la vidéo numéro 6, merci. Et ça, c'est l'Alia de France.
Bouharim le vol Israël.
Voilà, c'est les Français.
On se sent, là on est arrivé depuis une heure et demie, on a été accueillis avec le sourire, on a été accueillis par vous du Keren Hayesod, qui tout au long de notre processus et grâce à tous les donateurs ont pu nous entourer non seulement d'affection mais aussi de répondre à un certain nombre de besoins matériels qu'on avait. Et voilà, il faut vraiment continuer parce que cette solidarité à travers votre association et d'autres, c'est vraiment primordial pour nous.
On a les colombes. Voilà, ça c'est plusieurs fois par an, hein, depuis des années. Et puis les derniers événements, bien sûr, antisémites en France, ça pousse bien sûr les Juifs à vouloir partir. Alors bien sûr que ça se fait de toutes sortes de pays, comme le dit la parole de Dieu. On peut passer la numéro 7, merci. Donc comme je le disais, ça s'est presque arrêté avec la Russie et l'Ukraine. Eh bien, le Seigneur est en train de secouer le cocotier.
Malgré les difficultés pour voyager en Israël, l'Alia ne connaît pas la crise. En 2021, l'immigration en Israël a fait un bond de presque 30% comparé à l'année précédente. Plus de 27 000 nouveaux arrivants du monde entier ont choisi de bénéficier de la loi du retour. Cette année, 3500 Olim ont fait leur Alia depuis la France, soit 40% d'augmentation par rapport à 2020. Le nombre de nouveaux immigrants est le plus élevé en 4 ans. Les arrivées depuis le Royaume-Uni ont augmenté de 22%, mais ce sont les États-Unis qui battent un record d'Alia. En 2021, 4000 juifs américains ont posé le pied en Israël pour en faire leur résidence permanente, du jamais vu depuis 1973. Autre pays d'où sont venus davantage de nouveaux immigrants cette année, l'Afrique du Sud, avec un bond impressionnant de 72% comparé à 2020. Elle est suivie du Mexique et de l'Argentine. L'Alia depuis la Russie et l'Ukraine reste solide, mais sans sursaut constaté.
Nous sommes heureux de constater une forte augmentation de l'Alia. L'intérêt croissant pour l'Alia s'est confirmé cette année. Cependant, le meilleur reste à venir. Nous n'avons pas encore maximisé le potentiel de l'Alia.
Particularité en 2020, un coup de jeune dans l'immigration en Israël. Plus de la moitié des nouveaux immigrants sont des moins de 35 ans. Médecins, pharmaciens, ingénieurs ou éducateurs décidés à poursuivre leur vie en Israël. Précisément à Tel Aviv, première destination plébiscitée avant Jérusalem et Netanya. En 2020, les chiffres de l'Alia avaient reculé à cause de la pandémie. Ses effets sont toujours ressentis. En 2021, l'Alia restera 25% moins importante qu'en 2019. Une année record bleu et blanc.
Bien sûr qu'il y a eu des problèmes avec le Covid. Hein. C'était pas très facile de partir à ce moment-là. Donc ces chiffres-là, c'était juste avant la guerre aussi de l'Ukraine et de la Russie. Alors, aujourd'hui, on va lire un passage qui est intéressant. C'est comment c'était en Israël il y a quelques années. Vous savez, en 1867, il y a un écrivain très connu qui est allé en Israël. C'était un homme qui voyageait pour raconter ce qu'il voyait, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore les films comme maintenant. Ce grand écrivain, il s'appelait Mark Twain. Ça vous dit quelque chose, écrivain américain, qui voyageait donc pour décrire ce qu'il voyait, faire des livres. C'était une sorte d'écrivain aventurier. Et il est allé en Israël, donc avant, donc 1867, c'est avant tout ça. Voici ce qu'il dit dans l'un des paragraphes les plus connus de l'un de ses livres. Il décrète que les côtes d'Israël sont les plus moches en comparaison des autres endroits où il s'est rendu. Il dit « Il me semble que de tous les pays ayant un sombre paysage, Israël détient la palme. Les collines sont chauves, les couleurs sont fanées, ses formes sont loin d'attirer l'attention. Les vallées sont désertiques, moches et décorées d'une nature pauvre dont la vue inspire tristesse. C'est un pays morne, sans espoir, un pays qui brise le cœur. » Voilà une description réelle. Il y a eu d'autres écrivains qui ont écrit à peu près les mêmes choses concernant Israël avant le retour des Juifs. Je pourrais vous donner des chiffres, mais j'en ai un là comme ça sous les yeux. En l'an 2000, Israël a exporté pour 50 millions de dollars de fleurs. En général, ça part sur la Hollande et ensuite c'est redistribué. Mais ce n'est pas marqué qu'une partie de ces fleurs vienne d'Israël. Aujourd'hui, c'est un des plus gros producteurs de fleurs. Israël, c'est quand même assez incroyable. Et quand on compare ce que Mark Twain a vu et ce que c'est aujourd'hui, c'est exactement ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et il y a d'autres écrivains qui font les mêmes constatations. Alors, on va passer à la vidéo numéro 8, ça va vous parler un petit peu d'Israël aujourd'hui, un des pays high-tech, où il y a beaucoup de gens qui reçoivent des prix Nobel, etc.
120 ans plus tard, force est de constater qu'Israël est devenu une puissance internationale reconnue par le monde entier. Puissance militaire, puissance économique, puissance médicale, référence incontournable dans le domaine du high-tech, experte dans la lutte antiterroriste, créatrice de nouvelles sources d'énergie et à la pointe de tant d'autres domaines. Israël inspire, Israël fait rêver. Mais Israël est surtout devenu le pays dans lequel vit la plus grande communauté juive du monde. Un pays qui a accueilli en 72 ans d'existence près de 4 millions de nouveaux immigrants juifs venus des quatre coins du monde. Un pays dans lequel identité juive et identité nationale ne font qu'une.
Okay. Ouais, c'est comme ça ? Ça finit comme ça ? Je sais plus.
120 ans plus tard.
Non, c'est bon. Ok. Voilà, 120 ans plus tard, hein, par rapport à ce qu'on a lu de Mark Twain. Alors, vous imaginez bien qu'une telle profusion de prophéties concernant le retour des Juifs, c'est parce que c'est un grand événement biblique. Moïse lui-même l'avait déjà mentionné, il y a un lien spécial entre Israël et sa terre. Il y a un lien spécial. On n'a jamais vu qu'il était dit dans le monde d'un autre pays que si ses habitants tombent dans le péché, ils seront chassés de leur terre. Les Anglais n'ont jamais été chassés de l'Angleterre à cause de leur péché. Hein. Ou alors, il n'y a jamais eu de péché en Angleterre. Ou en France. Hein. Mais Israël, c'est spécial. Quand ils tombent dans le péché, Dieu les chasse. Et ils ne peuvent revenir que sur la parole de Dieu. Ce dernier retour, c'est le plus grand de l'histoire. C'est un événement clé avant le retour de Jésus. D'ailleurs, les juifs religieux en veulent aux juifs qui ne rentrent pas parce qu'ils disent que c'est de votre faute si le Messie n'est pas encore revenu. Il reviendra à Jérusalem. Il gouvernera le Messie, le monde, à partir de Jérusalem. Et c'est important de comprendre que Jérusalem, l'Israël, a toujours la même place dans le cœur de Dieu, même s'ils ont désobéi. On sait que les choses ne vont pas forcément se passer facilement. Vous vous souvenez que hier, on a vu qu'une grande partie du peuple juif n'ont pas voulu obéir à l'édit de Cyrus de rentrer sur leur terre et que ça a failli mal tourner pour ceux qui sont restés dans le royaume de Perse du temps du roi Assuérus et de Haman. Dans Jérémie, chapitre 16, verset 14, il y a dit quelque chose. Et bien sûr qu'aujourd'hui encore, beaucoup de Juifs ne veulent pas rentrer en Israël parce que la vie en Israël, elle est difficile. Et que là où ils sont, pour beaucoup, ils sont bien. Et bien sûr. Tout en disant chaque année à Pâques, l'an prochain à Jérusalem. C'est la tradition. Jérémie 16, 14. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays des septentrions, de tous les pays où les avait chassés. Je les ramènerai dans leur pays, c'est encore une autre fois, que j'avais donné à leur père. Voici, j'envoie une multitude de pêcheurs, dit l'Éternel, et ils les pêcheront. Et après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs, et ils les chasseront. Et ça, c'est un peu inquiétant. Parce qu'un pêcheur, c'est gentil, un chasseur, c'est un peu moins gentil. Et cette prophétie pourrait nous faire penser qu'après un temps où ça se passe relativement bien pour rentrer, eh bien ça se passera un peu moins bien. Il existe aujourd'hui une association qui s'appelle, alors on en pense ce qu'on veut, qui s'appelle Ebenezer, qui pense avoir reçu de Dieu qu'à un moment donné, les chrétiens devront intervenir et agir rapidement pour aider les juifs à s'enfuir en Israël. Donc ils préparent, ils ont tout un plan qui est prévu pour ça. Alors on en pense ce qu'on veut, moi je ne sais pas, je ne suis pas à leur place pour savoir ce qu'ils ont reçu de Dieu. Mais eux, ils prennent ça très au sérieux et ils répertorient les gens, et les chrétiens en particulier, qui sont d'accord pour héberger dans l'urgence des juifs. C'est actuellement qu'ils font ça. Prévoir des chauffeurs pour les amener en urgence à l'aéroport éventuellement et les aider de toutes sortes de façons. Alors, dans quelle mesure, nous, en tant que chrétiens, nous sommes concernés? Mais déjà, nous sommes concernés parce que c'est l'accomplissement des prophéties de la parole de Dieu. Et même si ça concerne Israël, la parole de Dieu nous concerne tous. Ça nous concerne parce que le retour des Juifs sur leur terre est aussi lié à la venue, au retour de Jésus, bien sûr. Donc, il faut souhaiter l'accomplissement de cette prophétie. Et il faut prier pour cela. Et vous savez, quand il y a des prophéties, il y a un combat spirituel pour qu'elles ne s'accomplissent pas. Parce que le diable n'a pas du tout intérêt à ce que ça s'accomplisse. Et qui va prier et intercéder pour le peuple juif pour qu'il rentre? Si ce n'est pas l'Église, qui va le faire? Il n'y a que l'Église qui est capable d'intercéder auprès du Père au nom de Jésus pour que les prophéties de la parole de Dieu s'accomplissent. Amen. C'est important de prier pour l'accomplissement des prophéties, parce qu'il y a un combat spirituel pour qu'elles ne s'accomplissent pas. Il faut que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc la parole de Dieu sera annoncée à toutes les nations. Alors puisque c'est écrit, ce n'est pas la peine de prier. Ce n'est pas la peine de prier pour l'évangélisation, c'est écrit que ça va se faire. J'ai raison? Et non, je n'ai pas raison. On prie pour l'évangélisation parce que c'est un combat spirituel. Et il y a deux choses très importantes pour le retour du Messie. C'est le retour des Juifs sur leur terre et l'évangélisation du monde. Il faut que la bonne nouvelle soit annoncée à toutes les nations, alors viendra la fin. Et on prie pour cela et on agit pour cela, pour que ça se réalise. Eh bien, pour le retour des Juifs, il nous faut prier pour cela, parce qu'il y a un vrai combat spirituel. Beaucoup de Juifs vivent un véritable combat intérieur. Ils ont envie, ils sont attirés, et en même temps, bien sûr, il y a toutes sortes de retenues, de peurs, de craintes qu'on peut comprendre, des craintes matérielles, familiales, mais aussi une véritable opposition spirituelle qui est diabolique et qui veut faire en sorte que ça ne se fasse pas, que les Écritures ne s'accomplissent pas, que la volonté de Dieu ne se fasse pas. C'est pour ça que l'évangélisation, c'est aussi, bien sûr, un grand combat spirituel pour nous. Alors l'Église est concernée par ces choses. C'est notre combat. Et si ce n'est pas l'Église qui combat, qui va le faire? Le peuple juif n'est pas en mesure de combattre. Ils n'ont pas cette relation avec Dieu que nous avons. Ils ne savent même pas qu'il faut prier pour ça. Ils ne le savent pas. Et nous, nous le savons, même s'ils savent que c'est écrit. Et nous savons que ce qui est important, c'est qu'un jour, là-bas, ils vont tourner, là-bas, les regards vers celui qu'ils ont percé. Amen. Merci Seigneur. Un seul peuple est capable de comprendre ce double combat spirituel, c'est l'Église. Et il nous appartient, eh bien, de hâter le retour de Jésus en combattant un combat spirituel en faveur de l'évangélisation du monde, ça vous le faites bien sûr, mais aussi en faveur du peuple d'Israël. Et que ça plaise ou pas, selon ce qu'on entend bien sûr dans les informations, Israël appartient au peuple juif. C'est comme ça. Et vous remarquerez, entre autres, par exemple, que Gaza fait partie des conquêtes de Josué. Eh oui, et c'est comme ça. Après, la politique, c'est la politique, mais la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et vous savez, la meilleure façon de bénir Israël, c'est de prier pour eux. Et peut-être aussi, si le Seigneur nous en donne la possibilité, de leur parler du Seigneur. Eh oui. Et la meilleure façon de les maudire, c'est de ne pas vouloir leur parler de Jésus. Eh oui. Je ne veux pas te parler de Jésus, va en enfer, ce n'est pas mon problème. Ça s'appelle maudire Israël. C'est une façon, tout au moins. Et nous ne voulons pas, bien sûr, de ça. Nous voulons être en bénédiction, nous voulons les porter sur notre cœur, parce que malgré toute leur désobéissance, malgré tous leurs péchés du passé et d'aujourd'hui, parce que vous ne faites pas d'illusions, ils ne sont pas meilleurs que les autres, hein, malgré tout ça, c'est toujours un peuple qui est sur le cœur de Dieu. C'est comme ça, selon la promesse faite à Abraham. Vous savez, dès les premiers siècles de l'histoire, il y a eu une théologie qu'on a appelée la théologie du remplacement. Et cette théologie, elle a été prise pratiquement par tous les pères de l'Église. Et en quelque sorte, cette théologie dit qu'à partir du moment où les Juifs ont tué Jésus, ont tué Dieu, ils perdent leur élection, ils ne sont plus le peuple élu de Dieu et l'Église prend leur place. Mais ça, c'est faux. Parce que dans Romains 11, il est dit que c'est juste comme une parenthèse pendant le temps de l'évangélisation du monde, mais qu'à la fin, ils se convertiront tous. Ils se convertiront tous. Et l'apôtre Paul a bien compris l'importance de l'évangélisation du monde, du peuple juif, pardon. Et même Jésus dira à un moment donné, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Bon. Et il dira un jour à ses disciples, « N'allez que vers les brebis perdues de la maison d'Israël, à tel point que suite à la résurrection de Jésus, dans un premier temps, les disciples, les apôtres ont cru que l'évangile n'était que pour les juifs et qu'il n'était pas question d'annoncer l'évangile aux païens. Et quand Pierre a commencé à le faire, ça lui a valu des reproches. Eh oui, parce qu'il n'avait pas compris que l'évangile devait être annoncé à toutes les nations. Cependant, la parole de Dieu dit que l'Église, ce sont des branches greffées sur l'olivier franc. Et l'olivier franc, c'est Israël. Et la racine, c'est Abraham, Isaac, Jacob, etc. Et Dieu n'a pas changé d'avis. Il n'a pas rejeté le peuple de Dieu. On l'a vu dans tous ces versets que nous avons lus. Ils sont toujours sur le cœur de Dieu. Et s'ils sont sur le cœur de Dieu, ils doivent être sur le cœur de l'Église. Amen. Eh oui, parce qu'on doit être d'accord avec Dieu. Tant qu'à faire, ça serait bien qu'on soit d'accord avec lui. Eh oui, et c'est important ça. Et vous savez, moi je crois que depuis les événements du 7 octobre, l'horloge s'est remise en marche. Parce qu'en fait, ça faisait un temps que ça ronronnait. Tout allait à peu près bien. Avec quelques attentats par-ci, par-là, mais ça allait à peu près bien. Et là, le voyant rouge s'est allumé. L'histoire s'est remise en marche. Il y a déjà eu des événements très importants depuis, avec la Syrie, avec toutes ces choses. On est en marche vers la fin. L'horloge s'est remise en marche et nous, on doit être vigilants. Et je dis même que ces événements ont une particularité. C'est qu'ils obligent de plus en plus les gens à être pour ou contre Israël. Et moi, je pense quelque part un petit peu à ce verset aussi où Jésus dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » Et l'indifférence vis-à-vis d'Israël, ça n'existe pas, et de moins en moins, et de plus en plus. Ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits, ça ne veut pas dire que Netanyahou est parfait, ça ne veut pas dire que tout est rose, mais ça veut dire qu'à un moment donné, par rapport à Israël, il faut se positionner. Et le peuple de Dieu, l'Église, est amené à se positionner. Et il n'y a pas 50 positions. Parce qu'il est écrit, Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et certains pourraient dire, mais écoutez, moi, Israël, j'ai ni envie de le bénir, ni de le maudire. Mais dans la parole, il n'y a pas trois positions, il n'y en a que deux. Et c'est toujours comme ça avec Dieu. Il y a toujours deux positions. C'est comme avec Jésus. Beaucoup de gens vont vous dire, vous savez, moi, Jésus, je suis ni pour ni contre. Mais celui qui n'est pas pour, il est contre, qu'il le veuille ou non. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Et nous, il nous appartient de prier pour Israël, de bénir Israël, de souhaiter qu'il se tourne vers Dieu. Que la prophétie de Jérémie 31-31 s'accomplisse. Elle est formidable, cette prophétie de Jérémie 31. Parce que... Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. On va voir ça demain matin. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Ça, c'est l'alliance avec Moïse. Alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On est d'accord avec ça? Voilà, merci à vous d'avoir écouté. Merci à la sono, à la projection, c'était super. Gloire à Dieu. Peut-être que, il n'est pas encore trop tard, un petit temps de questions. Si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre. Je n'ai pas réponse à tout, hein, je vous préviens. Il n'y a que Google qui a réponse à tout. Ou l'intelligence artificielle, et encore. Oui. Ça fait longtemps qu'on en parle. Bien sûr. Eh oui, bien sûr. Alors, on ne sait pas trop encore tout, parce que les événements, des fois, ils vont très vite. Hein. Mais c'est sûr qu'avant le retour de Jésus, ça va aller mal. Pour Israël, ça va aller très mal. Et il faudra vraiment le secours du Seigneur. Eh oui. Oui, mais ça va ensemble. Bien sûr, bien sûr. De toute façon... De plus en plus, il y a deux peuples qui sont de plus en plus persécutés, c'est les juifs et les chrétiens. On voit bien l'indice de persécution des chrétiens dans le monde qui augmente énormément. On arrive vers la fin, les chrétiens sont gênants, les juifs sont gênants, parce que ce sont les deux peuples qui préparent la venue du Messie. Nous, consciemment, les juifs peut-être moins consciemment, encore qu'ils l'attendent bien sûr, mais nous sommes les deux peuples dans la prophétie. Dans la prophétie jusqu'à la fin. Et c'est vrai que ça va devenir de plus en plus difficile pour nous aussi, bien sûr. Bien sûr. Oui, oui. Alors, il y en a, on ne peut pas dire que ce soit le réveil, mais il y en a. Et je sais, parce que je travaille pour ça, justement. Alors, on est encouragé, et je suis très encouragé par ceux qui travaillent avec Juifs pour Jésus depuis très longtemps, parce qu'ils disent que jamais l'évangélisation des Juifs, il y a une telle ouverture comme celle qu'on a aujourd'hui. Et en particulier, les événements du 7 octobre ont permis à des chrétiens d'apporter beaucoup de témoignages auprès des Juifs en Israël, avec des distributions importantes de Nouveaux Testaments. Et ça, c'est quand même tout nouveau. Il nous appartient, comme dit la parole, et ça concerne l'Église, ce verset, par rapport à Israël, « Consolez, consolez mon peuple ». L'Église doit avoir aujourd'hui, vis-à-vis des Juifs, des paroles de consolation, des paroles amicales, des paroles fraternelles, des paroles de soutien. C'est très important. Alors, je sais que vous n'avez pas de communauté juive importante ici, hein, mais bon, c'est bien de le savoir. Oui. Amen. Oui, c'est vrai. C'est la plus ancienne d'Europe, la synagogue de Carpentras. Elle est très connue pour ça, oui. Oui, oui. Eh bien. Gloire à Dieu. Voilà, merci d'avoir été attentif. Merci encore à votre pasteur. Et demain, on continue, mais avec un thème complètement différent. Merci.